France Musique.
Et 7h39, l'heure donc d'ouvrir les journaux. Le site Olyrix nous apprend la nouvelle. Un nouveau directeur artistique pour le centenaire de l'opéra de Roumanie. Ethan Schmeiser deviendra donc le nouveau directeur artistique de cet opéra à Bucarest à partir de la saison prochaine et portera la programmation du centenaire de la Maison Lyrique. Début 2020, ce chef a choisi d'abandonner ses fonctions de chef de chœur justement et de directeur musical à l'opéra de Tel Aviv pour ne rester que chef d'orchestre, pianiste et soliste. Fils de deux parents nés en Roumanie qui ont choisi l'émigration en Israël avec leurs proches en 1961, Ethan Schmeiser, lui-même né en Israël, s'inscrit dans l'importante communauté roumaine d'Israël. Sa première saison comprendra notamment une nouvelle production d'Oedipe de Georges Enescu. De la Roumanie à la Seine-Saint-Denis, il n'y a presque qu'un pas. Enfin, en tout cas, Thomas Pesquet sera d'accord avec ce raccourci. Pour les JO 2024, une incroyable collecte de chants en Seine-Saint-Denis. Sous la plume de Pierre Punelli à Télérama, il nous raconte un beau projet de l'ensemble vocal Sequenza 9.3 qui invite les habitants du département à venir enregistrer des chants représentatifs de leur culture. Un objectif, créer la Cantate 2024, une œuvre musicale participative qui reflète ce territoire cosmopolite accueillant une partie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dès le mois de septembre, tous les habitants de Seine-Saint-Denis, les Sequano-Dionysiens, quel joli nom, de tous âges, sont invités donc à en venir enregistrer un chant a cappella qui représente leurs racines et leur culture. En plus d'accueillir de nombreux équipements olympiques, le territoire de Seine-Saint-Denis constitue un carrefour naturel des peuples. On y dénombre plus de 140 nationalités. Un formidable terreau de création, se réjouit Catherine Simon-Pietri, la directrice artistique du projet. Cette moisson de chants viendra nourrir donc cette œuvre musicale Cantate 2024 participative et donc diffusée avant et lors des Olympiades de Paris. Plusieurs compositeurs puiseront dans cette sonothèque pour constituer un ensemble de fresques sonores des célébrations jouées dès l'an prochain en Île-de-France avec en ligne de mire la création d'un hymne, pourquoi pas, pour les JO parisiens. Et on l'a appris hier après une enquête qui avait été ouverte en avril 2018 en Allemagne. Une lourde amende a été infligée à des fabricants d'instruments qui se sont entendus sur les prix. Yamaha, Roland ou encore Fender ont notamment incité des commerces à ne pas vendre des violons en dessous des prix minimums fixés. Et elles devront donc payer, avec les magasins et les salariés, une amende d'environ 21 millions d'euros au total. Les fabricants et commerçants d'instruments de musique ont systématiquement et pendant des années agi de manière à limiter la concurrence sur les prix pour les consommateurs et ont même incité les principaux commerces à ne pas vendre en dessous des prix minimums fixés en utilisant même des logiciels de surveillance des prix de vente afin de s'assurer que les commerçants respectaient ces minimums convenus. Et de l'Allemagne à l'Indre, et ben il n'y a aussi qu'un pas dans cette revue de presse. L'Indre où, il y a une dizaine d'années, le pianiste Cyril Huvet a racheté une grange dont il a fait sa résidence. On vous en parlait il y a quelques jours ici dans Musique Matin. Il en a fait aussi un lieu de concert. L'été s'y tient le festival de la Grange au piano et mercredi dernier, il accueillait l'ensemble Douls Mémoire avec une représentation autour de Léonard de Vinci. Car en plus d'être peintre, scientifique et bien d'autres choses encore, l'homme de génie était aussi musicien.
Il paraît qu'en regardant les tableaux de Léonard de Vinci, il est possible d'y entendre de la musique. Une musique secrète que Denis Rézindadre, directeur artistique de l'ensemble Douls Mémoire, a tenté de saisir en allant explorer les recueils de partitions de la Renaissance.
Il s'agissait de trouver exactement la musique qui pouvait être jouée au moment précis où Vinci était en train de peindre ses tableaux. Et c'est pour ça que ça a été un projet qui m'a demandé énormément de recherches, parce qu'il fallait vraiment que, ville par ville, je consulte les manuscrits et je me dise, voilà, on jouait ça au moment où Léonard peignait tel tableau.
Et c'est l'occasion pour nous de, en fait, avec de la musique, d'imaginer ce que pourraient être les fêtes à la cour de Milan.
Le temps d'une soirée, ces pièces ont résonné dans la grange au piano, donnant au lieu des airs de cour milanaise. À chaque tableau, sa musique et en prime, quelques explications de Denis Rézindadre. Le public ressort conquis et instruit.
Et vous saviez, vous, que Léonard de Vinci était musicien ?
Absolument pas.
Non, un peintre, mais musicien, non, non.
Ah non, ah non, non. On savait qu'il faisait plein de choses, ingénieur, peintre, etc., etc. Et musicien, non, c'est une découverte.
Ils avaient creusé le sujet, quoi, on le sent. Et donc, oui, on avait une belle illustration musicale de ces chefs-d'œuvre.
On les verra autrement, les tableaux, maintenant. Moi, j'ai envie de retourner au Louvre, les voir, et j'aurai eux dans l'oreille, en plus. Donc, ça apporte une autre dimension ouais, au tableau.
Pour donner à entendre les œuvres du peintre, un instrument incontournable, la lyre à bras ou lyra da braccio, dont Léonard de Vinci joue et sur lequel il improvise. Contrairement à ce que son nom indique, l'instrument n'a rien d'une lyre, mais plutôt d'un gros violon à sept cordes. Au XVIe siècle, il cédera sa place à la lyra da gamba et aux luths et tombera peu à peu en désuétude. Aujourd'hui, ils sont sûrement moins d'une dizaine à savoir en jouer. Parmi eux, Nicolas Sansarla, de l'ensemble Douce Mémoire.
C'était un instrument qui était joué donc par ces 10 heures d'histoire. On racontait des histoires sur la place publique ou en privé. Et puis surtout, c'est avec des gens comme Marcile Fissin ou Pic de la Mirandole qui ont voulu rechanter ces hymnes orphiques en s'accompagnant à la lyra. Donc on a ces gens-là joué cet instrument. Et puis également les peintres, les architectes et tout ça. Dans chaque atelier de peintre, on avait sa lyra qu'on décrochait de temps en temps pour faire une pause et puis improviser une poésie, tout comme on le faisait dans les ateliers parisiens du XXe siècle avec une guitare accrochée au mur. Voilà, on décrochait l'instrument et puis on faisait sa pause.
De la lyre à bras, il ne reste que peu de traces, tout comme la musique que jouait Léonard de Vinci. Mais ces tableaux, eux, demeurent. Alors si l'envie vous prend, allez les contempler, tendez l'oreille, et qui sait, peut-être y discernerez-vous quelques mélodies italiennes.
Un reportage de Flore Caron qui est évidemment à retrouver et écouter sur notre site francemusique.fr. L'ensemble Douce Mémoire se produira le 17 septembre prochain dans le Cher et le 18 septembre à La Ferté-Saint-Aubin. Un ensemble qui jouera des musiques contemporaines de Léonard de Vinci, donc à l'occasion d'un ciné-concert sur la vie du peintre.
À réécouter sur francemusique.fr.